rentrer dans la banque.
9h05.
Attention, c'est un hold-up.
9h06.
Votre intérêt, fermez-la.
9h06.
On entend voler les mouches. Je vois ma mort.
9h07.
On avance vers le guichet.
9h07.
La combinaison du cap, vite.
9h08.
Je vous jure, je la connais pas.
9h08.
Dédé sort son attirail. Et je vois ma mort.
9h09.
La serrure vient de céder.
9h09.
Dédé tourne la poignée.
'Vient d'écouter lui chez Edith. Bah oui, c'est l'émission lundi matin qui a déjà commencé malgré le fait que l'indicatif soit resté à la maison, mais c'est bel et bien lundi matin. Donc lui chez Edith pour commencer, on écoute tout de suite après François G. Lazaro, le groupe Pigalle. Et puis, comme d'habitude, présentation du thème du jour, la rubrique agenda, développement du thème pendant 1h30, ensuite jusqu'à 13h. Voilà, bonne fin de matinée à toutes et tous.
Sur cette route poussiéreuse, il ne passait personne. Que faisait-elle plantée là, dans la station tout là-bas? À quoi ça sert, dites-moi, de vendre de l'essence, quand il n'y a plus rien ensuite qu'une falaise de granit? Elle s'en foutait bien, la fille en salopette, c'est Yolette. Oubliez-la, pour attendre quoi? Servir des gens qui ne viendraient plus jamais jusque-là. Vendredi 13, il était tard, le temps était lourd. Elle s'endormait à moitié, le bruit, la fissure, sauter le tonnerre. Un du Saint-Mirmorque fit trembler les murs de la station décrépite. Et puis le silence se fit. Elle avança doucement vers la cabine bleue, d'où sortit un grand gaillard. Comme dans les histoires, comme par hasard, ses jambes la lâchaient, tellement elle tremblait. Pourtant, un jour, ça devait arriver. Mais elle croyait rêver. Et la vie, comme une toupie, se mit à tourner de plus en plus vite. S'emballer, s'affoler. C'était lui, mais ça aurait pu être n'importe qui. Vendredi 13, il était tard, le temps était lourd. Ils n'ont même pas dit un mot, mais son souffle était si chaud sur son corps. Solitaire, depuis combien de temps déjà, elle fixait la lune blanche en s'accrochant à ses hanches. Quand le jour se leva sur la station service, ils étaient encore soudés, à même le sol tout huilé. Elle lui fit un café avec des gestes gauches. Il but et dit merci d'un signe qui disait salut aussi. Vendredi 13, il était tard, le temps était lourd. Mais tout ça c'était hier, une impression passagère. Elle refit sa coiffure, tant bien que mal. Mais sa tête bourdonnait, elle revoyait ce vendredi 13. Dans son souvenir, l'homme n'avait plus de visage, mais ses mains comme un message lui disaient qu'elle était belle, qu'elle ne serait plus jamais seule. Et en souriant, elle se dit qu'en ce joli samedi, elle quitterait le pays.
C'est bien Radio Libertaire, l'émission lundi matin. La rubrique agenda, maintenant, se rencontrer, se voir, discuter, réfléchir, agir ensemble. Le thème du jour, par contre, juste avant, on va développer un certain nombre d'idées autour du film « On a voulu nous rendre compte, c'est raté », les Lascars du LEP électronique, 1986. Je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais il nous a semblé que surtout dans un moment particulier comme celui-ci de mobilisation sociale, eh bien, il était important de revenir dessus et d'en tirer donc des enseignements. Ce sera pour tout à l'heure, donc 11h30. Pour l'heure, l'agenda, donc des rendez-vous bien évidemment à vous proposer. Déjà vous rappeler que vous pouvez toujours continuer à soutenir la radio en vous procurant la carte d'auditeur, 20 euros à l'ordre de DMC à Radio Libertaire 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement. Voilà, Natacha, des rendez-vous à proposer
oui,
de ton côté.
Alors, pardon ?
Je dis, t'as des rendez-vous à nous proposer.
Oui, bien sûr. Alors, d'abord, il y aura une rencontre avec Sylvain Boulouk, auteur du livre Le peuple du drapeau noir. Ce sera à la bibliothèque associative de Malakoff, le 14 impasse Carnot à Malakoff, donc dans le sud-ouest de Paris. Ça se déroulera le 4 février à 19h30. La bibliothèque associative de Malakoff accueille Sylvain Boulouk pour présenter et discuter de son dernier ouvrage, Le peuple du drapeau noir, édition Atland, en 2022. L'ouvrage retrace l'histoire du mouvement libertaire en France et ses origines au XIXe siècle à nos jours. Il explore les mythes et les relations aux syndicats, au communisme, à la violence. Une spécificité française se dégage qui explique en partie à la fois mai 68, les gilets jaunes, les ZAD, et pourquoi le pays n'a jamais connu d'équipées morbides comme celle des fractions armées rouges allemandes ou des brigades rouges italiennes. Une formidable fresque où l'on croise Proudhon, Bakounine, Kropotkin, où l'on comprend l'impact de la Commune, de l'affaire Dreyfus, de la Révolution russe, de la guerre d'Espagne, de l'illégalisme, le pacifisme. Les notions d'individualisme et de communauté sont questionnées. Mais aussi un livre qui tisse un lien entre végétalisme, amour libre et la bohème. Parce que l'anarchisme a multiples visages, parce que la culture libertaire est transmise à travers les générations, parce que l'engagement est un mode de vie. Cet ouvrage regorge de vie, c'est un roman vrai d'une idée. Ça, ce sera pour la bibliothèque de Malakoff. Un autre rendez-vous est proposé. Le 3 février à 19h30, de 19h30 à 23h, toujours à la bibliothèque associative de Malakoff, 14 impasse Carnot. Jauneau, une expérience libertaire, présentation de l'expérience Jauneau. Séduit par un Jauneau plein d'élan et d'utopie, Jean-Luc Sahagian propose une nouvelle entrée dans l'œuvre du géant Manosque. Il relie une expérience libertaire qu'il a vécue dans les Cévennes au début du XXIe siècle à celle de Contadour dans les années 30 où Jauneau, écrivain et citoyen pacifiste, rayonna. Il y a peut-être des annonces à faire pour la librairie Publico.
Oui, bien sûr. Quelques autres rendez-vous, encore. Ça va être ce soir, hein, lundi 30 janvier. Il va y avoir une soirée de soutien aux asilés italiens. Ça va se passer donc ce soir, je l'ai dit, 19h à 21h30 au Lucernaire. C'est 53 rue Notre-Dame-des-Champs, c'est dans le 6e arrondissement, métro Notre-Dame-des-Champs ou encore Montparnasse, bienvenue. Donc il y aura des débats évidemment, mais aussi de la musique et du théâtre. Et donc retour évidemment sur l'histoire de ces asilés italiens en France. De sa naissance à l'ultime arrêt de la Cour d'appel de Paris, donc qui a refusé leur extradition. Mais le combat n'est pas fini, loin de là. Voilà, donc ça c'est ce soir. Évidemment, le rendez-vous de demain, hein, c'est donc à 14h, place d'Italie. Donc rendez-vous, manifestation contre la réforme des retraites. Donc rendez-vous est donné à 14h. Donc place d'Italie. Ensuite un petit tour du côté de la librairie Publico. Donc il va y avoir le dimanche 5 février un débat auquel nous, c'est-à-dire l'émission lundi matin, le groupe Libertaire d'Ivry, vous invitons. À 16h sera projeté le film La ferme des animaux. Alors le film, le dessin animé pour être plus précis, La ferme des animaux de John Halas et Joy Batchelor, donc bien sûr d'après le célèbre roman de George Orwell, bien sûr. Comment lutter contre toutes les formes de pouvoir, capitaliste ou communiste autoritaire, voilà, ça sera un petit peu le débat autour de cette question qui va s'articuler l'après-midi. L'entrée est libre, bien évidemment, donc c'est le dimanche 5 février à 16h, vous êtes cordialement invités à nous rejoindre, bien évidemment, toujours à la librairie Publico. Ce sera le samedi 11 février. dans le cadre de Ciné-Segui, c'est-à-dire les soirées ou après-midi organisées par le groupe Segui, Salvador Segui de l'AFA, samedi 11 à 16h, ce sera Génération War 2 qui sera projeté. Donc ce film, cette série plus exactement, donc la deuxième partie vous sera projetée, et ce numéro 2, enfin ce deuxième épisode, se déroule en juillet 43 après la défaite de Stalingrad, retour sur cette époque, et débat animé avec le groupe Segui, et ça sera le samedi 11 à 16h à la librairie Publico, donc au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Et là encore, bien évidemment, l'entrée sera libre. Et puis enfin, toujours à la librairie Publico, et toujours pour ce mois de février, il y aura encore le mercredi 15 février, et là, c'est à l'initiative du groupe Commune de Paris de l'AFA, un hommage à Serge Livrauset. Serge Livrauset, donc je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent le parcours, l'engagement, ici même, à Radio Libertaire, bien évidemment. Un hommage à Serge Livrauset, et un documentaire sera projeté à cette occasion-là, un documentaire de Nicolas Drolk, La mort se mérite. Voilà. Projection qui sera suivie d'un débat en compagnie notamment de Jacques Lesage de La Haye, donc qui fut très longtemps sur cette station co-animateur de l'émission Ras les murs, consacré donc aux luttes anticarcérales, notamment. Voilà, donc cet hommage à Serge Livrauset à la librairie Publico, ce sera donc le mercredi 15 février à 20h. Là aussi, bien évidemment, l'entrée est libre. C'est un petit peu près tout ce dont je voulais vous parler. Alors oui, n'hésitez pas, évidemment, par rapport au rendez-vous de demain, il y a de multiples rendez-vous, mais je vais pas vous en faire la liste, parce que depuis quelques jours, et aujourd'hui et demain encore, partout il y a de multiples assemblées générales, interpro, plein d'initiatives qui se passent. Donc que ce soit pour ça, que ce soit aussi pour se déplacer, parce que demain se déplacer va être très compliqué, bien évidemment, même si les bus devraient fonctionner, mais enfin ça va être compliqué quand même. Sachez que dans tous les départements limitrophes ou même d'Île-de-France, eh bien il y a des départs en bus organisés pour venir à la manif, et pour cela je vous conseille d'aller sur le site Paris Lutte Info, et là vous avez tout les détails pratiques qui vous sont donnés concernant la manif, que ce soit les AG, les interpro, comment venir en bus, etc. Donc voilà, n'hésitez pas donc à consulter ce site. Du côté de la presse, pour l'instant, pas encore grand-chose, donc je me contenterai de vous rappeler que Le Monde Libertaire, numéro 1846, le pas de côté, c'est pour cette année, est toujours disponible à la librairie Publico, que vous pouvez bien sûr le trouver, le consulter, le lire, l'acheter, et cela à côté de nombreux autres titres de la presse libertaire qui vous sont proposés à Publico. Publico, c'est 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris. C'est au métro Oberkampf République, Fille du Calvaire. C'est ouvert du mardi au vendredi 13h-19h30, le samedi 10h-19h30 et le dimanche 13h-19h30. Voilà. On va écouter un petit peu de musique. On va rester avec le groupe Pigalle encore. Et ensuite se retrouver donc pour développer, évoquer donc la question du jour. À tout de suite.
J'ai ce matin, quel friton, putain, merde. J'ai une pêche d'enfer, ça va le faire, c'est la vie qui éclate. J'ai vraiment la patate. Ils apparaissent. bien m'expulser. Que je fais plus ruiner la rombière, qu'on m'a coupé le crédit bière. Ben, à part ça, ça va. Ceci explique cela. Il y en a qui seraient trop contents si j'étais agonisant. Quel friton putain, mais j'ai une pêche d'enfer, ça va le faire. C'est la vie qui éclate, j'ai vraiment la patate. Pourtant on ne peut pas dire qu'avec Bobon ça puisse être pire. Maintenant à la maison, elle ramène un coquin nouveau chaque semaine. Depuis le berceau, on dit que je joue de ma chance. Mais je joue pas, alors je comprends pas. Tiens, qu'est-ce que c'est ce matin? Quel friton putain, ça devrait pas être permis par les temps qu'on vit. C'est la vie, c'est la vie. Qui éclate, j'ai vraiment la patate, la patate. En fait, rien ne peut m'abattre. Pas besoin de psychiatre. Je suis un cas catastrophique. Rien ne m'atteint, c'est physique. Je l'aigrais mon corps quand je serai mort à la faculté. C'est la vie, c'est la vie qui éclate, qui éclate. J'ai vraiment la patate, c'est la vie qui éclate, j'ai vraiment la patate, c'est la vie qui éclate, j'ai vraiment la patate, c'est la vie qui éclate.
Hop, voilà, désolé. Bon, j'espère qu'il n'y a plus un gros blanc. Voilà, j'ai été interpellé par mes petits camarades. Oui, parce que l'équipe est au complet. Il y a Natacha qui est là, il y a Sylvie, moi-même, Laurent, Nicolas. Donc ils m'ont interpellé. Et, voilà, donc un petit blanc. Voilà, mais c'est pas très grave tout ça. Il est 11h23, on écoute encore un petit morceau de Pigalle. Le temps, bah, ma foi, que tout le monde, voilà, que tout le monde s'installe. Hein, voilà.
Fini, ça va faire maintenant 6 mois que je suis parti. J'espère que la petite va mieux, le collège ça devient sérieux. Et que toi chérie, tu ne t'ennuies pas trop. J'aurai sans doute un congé en juin. Ils en donnent à tous les chauffeurs d'engin. On envoie un chèque bientôt pour les impôts. Moi ça va très bien, tu sais, quand il fait beau. Il reste 300 km d'autoroute à construire.
En fait, si elle savait, la boue, la merde, le froid, les drachmes pourris, la nuit qui n'en finit pas. Pour la thune, il fallait partir à l'autoroute. Pas longtemps, j'ai un doute, mais elle ne trouvait pas l'emploi. Et les frères que moi, c'est déjà que je n'en aurais pas. De toute façon, elle le verra, plutôt elle ne le verra plus, elle sera déçue. Après 11 ans de mariage,
suite en guise de message.
Elle recevra cette lettre qui raconte que tu... De toute façon, elle sait qu'on ne sait jamais rien dire.
Elle la lira heureuse, imaginant géant sur mon cadet. Là, les bandes se déroulant vers le soleil des autres gens.
Avant de t'embrasser dans le cou comme tu aimes, je te demande par retour des cigares comme j'aime. Dis bonjour au petit que papa pense à lui et à ta mère que j'ai freiné l'alcool. Toi attention à ton dos, prends la voiture si tu cherches un boulot. J'ai bien reçu ta lettre et le petit paquet, la photo des enfants est sur la table de chevet. Il reste 300 km d'autoroute à construire.
Ce soir encore, ça va finir au barrio, avec de la bière, du mauvais porto, pour dormir sans l'aider, à condition des draps, parler pour ne rien dire, et surtout, tout pas là-bas. Les putes viennent d'elles mêmes autour des drapeaux, elles sont au col et puis en avant. Elles ne posent pas de questions et ça va pas pris. Je les laisse me toucher, les yeux collés au mur, je regarde les cafards et l'été, au tréfonds du coltard.
Elle recevra cette lettre qui raconte que tu... De toute façon, elle sait qu'on ne sait jamais rien dire. Elle la lira heureuse, imaginant géant sur le cap-terre. Il a des bornes se déroulant vers le soleil des autres gens.
Post-scriptum, n'oublie pas dans le courant du mois de rembourser Roger le plus de temps qu'on lui doit. Et je t'embrasse encore où tu veux sur ton corps. Salut à toi ma femme, je reviendrai bientôt. Et je referme cette lettre remplie de mes caresses. Crois-moi, je pense à toi sans cesse. Il reste 300 km d'autoroute à construire.
Et puis il y a Anna qui fait leur ravito. Elle a un gros nez mais tout le reste est beau. Elle est gentille et m'écoute et me parle comme si elle comprenait que je suis de la fond de cale. On pense au grand soleil qui sent le miel. C'est une étape de la fuite en avant. Si tu n'existes plus toi les enfants, elle aussi bien sûr sera réputée un jour. Moi je partirai, la peur sous mon béret.
Elle recevra cette lettre qui raconte que je... De toute façon elle sait qu'on ne sait jamais rien.
Vous écoutez Radio Libertaire, c'est bien l'émission lundi matin. Nicolas, donc qui est là, Natacha, Sylvie et Laurent. Donc thème du jour, je l'annonçais tout à l'heure, donc quelques idées évoquées, développées autour du visionnage du film On a voulu nous rendre cons, c'est raté, les Lascars du LEP électronique 1986.
Oui, bah déjà, le truc qu'il faut dire d'emblée, c'est que, enfin, on rebondira tout à l'heure, on va parler d'abord, je pense, du film lui-même, mais ce qui est intéressant avec ce film, c'est que c'est pas seulement quelque chose d'historique, c'est que le truc qui est frappant, c'est que ça soulève vraiment des problèmes structurels, des problèmes de fond qui sont complètement d'actualité, et qui le seront malheureusement, si les choses changent pas, qui le seront encore plus tard, et particulièrement en ce moment où il y a des luttes. L'idée de la lutte des classes dans la lutte, c'est quelque chose qui, malheureusement, est vraiment structurel. Donc, tout à l'heure, d'ailleurs, on évoquera un tract qu'on a mis en, enfin, que le Nicolas a mis en ligne hier sur le blog, hein, qui est intermittent, vous n'avez rien compris, et qui renvoie au tract des Lascars, étudiant, vous n'avez rien compris, Nicolas.
Bah oui, tout à fait. Déjà qui s'appelait les Lascars du CIP. C'était bon, le mouvement de CIP, coordination des intermittents et précaires.
C'est ça. Et Et ils soulèvent les mêmes questions.
Bah, c'est bien pour ça qu'ils reprennent les mêmes, les tracts des Lascars qui se référencent à eux. Ils font référence à eux. Ils disent comme les Lascars du LEP en 86 à leur temps, parce qu'ils rencontrent les mêmes problèmes, la même situation. Et ils ont envie de réagir de la même façon.
Et nous, comme on s'est retrouvés dans cette situation d'essayer de se mêler à une lutte d'intermittents du spectacle, on va pouvoir confirmer de la bouche du cheval et de la jument que, n'est-ce pas, que c'est bien, bel et bien comme ça que ça se passe quand tu essaies de te mêler à une lutte de quelqu'un qui estime qu'il fait, à des gens qui estiment qu'ils font partie d'une certaine élite culturelle et que toi t'en fais pas partie, quoi, et qu'ils font semblant qu'ils veulent t'associer à leur lutte, alors que c'est mais quand je dis pas le cas, mais pas du tout, ce qui s'appelle, on est des fantômes, vraiment, complètement des fantômes. Et donc c'est ça l'idée des Lascars déjà, on parlera ça tout à l'heure, mais, donc Natacha, toi t'as découvert les Lascars, déjà le tract qu'a lu Laurent lundi dernier, et puis on a regardé le film hier en fait. Donc t'en as pensé quoi de cette lutte pourtant.
Je pense que ça, en fait, ça va rejoindre un peu le sujet de l'émission de la semaine dernière, dans le sens où l'émission de la semaine dernière, on le faisait sur justement ce film où les étudiants se retrouvent confrontés au fait à la résignation du on va devoir travailler d'ici un an ou deux après le bac, c'est fichu, il faut rentrer dans le moule, quoi. Là, c'est à peu près la même chose, la résignation en moins. Dans le sens où tu te trouves devant un lycée technique où tu sais pertinemment que ta destinée, ça va être de bosser à l'usine comme tout le monde, et devant le même refus,
quoi. C'est pas comme tout le monde, comme tous ceux c'est pas comme tout le monde, justement, c'est pas tout le monde qui bosse à l'usine.
Oui, non, c'est une grande partie des gens, comme tous les
gens du lycée,
comme
du
tous lycée, les autres du lycée technique, du quoi.
Oui, voilà.
Et là, la résignation en moins, de se dire non, on veut pas y aller, quoi, parce que ce qu'on retrouve dans ces deux films, celui de la semaine dernière et celui-là.
Donc c'était pas ton bac d'abord, hein, parce qu'on avait raté d'abord l'épisode précédent.
Et c'est le coup de on n'a pas spécialement d'autres idées immédiates que juste de se marrer, quoi. Enfin, un appel à la vie, ou juste à pouvoir vivre une vie telle qu'on se l'imagine et pas telle qu'elle nous est programmée ou par biais du lycée technique, quoi.
En plus, le pire, c'est que dans Passe ton bac d'abord, comme le titre l'indique, donc c'est un film de Piala qui est joué par des jeunes qui en fait jouent leur propre rôle et qui sont des gosses de prolo. Ils passent le bac, contrairement à ceux du LEP, mais ça change rien à l'arrivée, au fait que ils vont devoir faire des boulots de merde, payer des nefs, et surtout quelque chose, sans parler du salaire, c'est surtout que c'est quelque chose de très aliénant, alors que en effet, ils ont ce point commun d'avoir envie de vivre. Il y en a qui se disent comment on pourrait ne pas travailler, mais ils voient pas trop comment, et on ne sait pas ce que sont devenus les Lascars. Donc on peut malheureusement imaginer que peut-être ils n'ont pas réussi à se sortir de ce merdier, je sais pas. Mais je veux dire, le fait de passer le bac, d'en passer ton bac d'abord, on n'a pas l'impression que ça a changé grand-chose fondamentalement, à partir du moment où t'es un... comme les Pogo Marteau en tant que fils de prolo. Oh. Non, tu vois, c'est ça, c'est des enfants de prolo, c'était leur destin. On peut toujours même imaginer qu'ils essayent de s'en sortir, mais c'est très compliqué, alors que pour les étudiants, en effet, c'est pas du tout ça qui va être leur destin. Donc ouais, effectivement, il y a ce côté, l'envie de vivre, et puis le fait de dire on veut pas aller à l'usine, alors que c'est vraiment ça qui les attend. Mais le truc que je voulais dire, parce que par rapport à ça, c'est qu'en revoyant le film, je me suis dit non, mais c'est dingue, c'est que ce film, il faut l'expliquer quand même, c'est que les Lascars du LEP électronique, on a dû le projeter, je sais pas, Laurent, trois fois, quatre fois, hein, 3 ou 4 fois au moins. C'est parce que c'est vraiment un film qu'on vous conseille, donc vous pouvez le télécharger sur le blog du groupe d'Ivry, et puis voir aussi le tract, donc les tracts des Lascar de 86 et les tracts de 2014.
2014, c'était. Oui. Et on trouve les mêmes problèmes. Avec des tracts sur leur site aussi, entre les deux, entre 96 aussi, des gens qui soulevaient les mêmes problèmes, avec encore des intermittents.
Oui.
Voilà. Des intermittents qui appellent tout le monde à les soutenir, et puis des gens qui viennent et qui se retrouvent comme s'ils n'étaient pas là.
Oui, voilà, et puis, mais vraiment, bon, enfin, on racontera plus en détail comment ça s'est passé pour nous quand on a essayé de se joindre à leur lutte. Oui, c'est vrai que quand on a projeté généralement à Publico ou bien au Forum Léo Ferré, je crois, ou bien dans une salle municipale à Ivry, et les gens venaient sur notre terrain, sur le terrain quand même de gens qui étaient ouvertement anarchistes. Donc, franchement, les gens avaient, tous les gens qu'on a vus, tout le monde avait compris. Je veux dire l'idée des Lascar, enfin tout leur discours, non, qu'on pourra détailler peut-être tout à l'heure, mais enfin on peut même maintenant le dire. Grosso modo, qu'est-ce que t'as retenu de ce que veulent dire les Lascar, à part le fait qu'ils veulent pas bosser? Ils ont un discours qui va plus loin sur l'idée de la division des tâches, par exemple, qu'ils veulent pas d'une société où il y a des gens, c'est normal que ça soit eux qui aillent à l'usine et puis les autres qui fassent des métiers intellectuels, artistiques, etc., et que ça soit divisé de cette manière.
En fait, disons que pendant le film, pour rappeler un peu le synopsis, ils se trouvent, enfin, devant un mouvement étudiant qui ne concerne que les étudiants, c'est-à-dire ceux qui vont être destinés à plus tard devenir leur futur cadre, leur futur patron.
Pas tous, faut être honnête, tous les étudiants ne viennent pas cadre ou patron.
Non, pas tous, en partie, mais qui seront socialement, plus élevés dans la pyramide sociale
voilà,
que quoi.
C'est ça.
Et donc, ce qui se passe, c'est que ils se retrouvent absolument méprisés par ceux qui les appellent à venir soutenir leur lutte, c'est-à-dire les étudiants.
Et ça se traduit comment, ce mépris, en fait?
Par juste de, comment dire, une incompréhension absolument totale. Disons que les Lascar, on diffuse des tracts, des affiches, etc. On est en revendication, on veut pas aller à l'usine, on est dans un lycée technique, on refuse, on a envie de fuir cette espèce de destinée véreuse, quoi. Et pour des étudiants, ils comprennent absolument pas. Pour eux, ça découle de la normale. Et puis, évidemment, le truc qui peut s'ajouter à ça, c'est que eux qui sont pas dans la même classe sociale. Alors, quand tu vas entendre les Lascar parler, qui eux sont pas sont ni dans des partis politiques comme nombre des étudiants qui vont parler à la tribune, sont pas habitués à avoir une éloquence et une manière de parler comme la leur.
De toute façon, on leur donne même pas la parole.
Non,
ils expliquent, en plus on les laisse même pas parler, si j'ai bien suivi. Des fois même pas rentrer. Non, c'est vrai.
Non, c'est vrai pour le. Oui. Mais enfin, de toute manière, tu vois bien que ce qui se passe, c'est que même quand ils essayent de s'exprimer, ça passe pas sur ce terrain-là, qui est le terrain, social, quoi, d'une différence dans leur vie qui creuse tellement un gouffre que les étudiants arrivent même pas à comprendre la revendication de ne pas aller travailler dans une usine, quoi.
Justement, c'est ça que je voulais dire, que nous, quand on a projeté donc ce film, en général, on était devant des gens. D'ailleurs, la première question qu'ils posaient, c'était: qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ben, je vous donne la réponse: on n'en sait rien. On connaît même pas leur prénom, encore moins leur nom. Et on n'a jamais eu de nouvelles, jamais, alors que ce film, et on peut le dire dans certains milieux, c'est un film culte. Hein. Il a été projeté je sais pas combien de fois parce qu'il pose des problèmes qui sont tellement cruciaux, quoi, et c'est tellement bien posé. Que c'est quelque chose qui a quand même beaucoup circulé, quoi. Et pourtant, on n'a jamais eu la moindre nouvelle d'aucun des cinq qu'on voit, des cinq jeunes gens. Ils ont 16 ans, hein, je crois. 16 ou 18 ans. Non, 18 ans, je crois qu'ils ont. Enfin, ça dépend de avoir de 16 à 18 ans. Ils se sont rencontrés à l'occasion de 86, la loi de Vaquet. Mais ils expliquent d'ailleurs que eux, ça les concerne pas. C'est la sélection à l'entrée de l'université. Eux, la sélection, elle a joué à l'entrée de la troisième. Donc, c'est pas du tout un truc qui les concerne. Et au début, ils y vont comme ça, hein, dans la lutte. Et puis, ils se rendent compte assez vite que ça les concerne pas. Vraiment pas. Et ils sont confrontés vraiment, les étudiants. Comment ils les traitent, Nicolas, tu me disais tout à l'heure, même la première semaine, venez donc avec nous.
Bah oui, quand il y a les lycées qui font partie du mouvement, puisque les lycées généraux sont destinés à devenir étudiants, les lycéens, mais les lycées les lycées pro sont pas vraiment ils prévoient pas vraiment de les avoir dans la lutte au départ, mais bon, ils viennent, alors, ok, ouais, bienvenue, venez nous soutenir, pas de problème, et puis après, bah, ils mettent
à l'arrière des manifs, hein, quand même.
Bah oui, non, mais ce qu'ils expliquent, c'est que après ils commencent à rencontrer déjà dans leur lycée, puis d'autres lycées, puis ils s'organisent, puis ils se montrent en tant que lycée professionnel. Et alors là, quand ils reviennent dans les manifs, on leur dit, mais qu'est-ce que vous venez, pourquoi vous venez ici, quoi? Et puis, du coup, oui, on les empêche même carrément de parler, y compris dans les coordinations de lycée. Donc, c'est censé... puis on les voit, les étudiants, évidemment, c'est bien sûr, chacun doit avoir la parole, etc. Et donc, coordination de lycée, donc ils sont censés s'exprimer eux-mêmes, et carrément, ils sont exclus de ça, ils peuvent pas rentrer, c'est dirigé par des étudiants.
Oui, c'est vraiment... c'est assez édifiant, mais donc, pour en venir à la projection... Donc ça se passait bien quand nous on a projeté, mais à un moment donné, il y a un copain, un ancien du groupe d'Ivry, qui avait préféré se consacrer entièrement à la lutte syndicale, vu que c'était beaucoup son truc et que nous on est moins sur ce truc-là, quoi, qui s'appelait Nicolas, encore un Nicolas. il avait créé une interpro dans le 13e, je sais pas, je crois que j'en ai peut-être parlé la semaine dernière. Et donc le truc, c'est que il avait décidé de projeter les Lascars. Et puis moi, j'y vais comme d'habitude. Enfin, je veux dire, comme dans le même état d'esprit que d'habitude. Et il faut dire qu'on est vraiment, pour nous, les Lascars, c'est une énorme référence. Enfin, tu l'as compris, Natacha. C'est vraiment quelque chose de complètement essentiel pour nous. Et c'est incroyable, quoi. Ces jeunes qui ont effectivement pas avalé des bibliothèques et encore moins fait d'études et qui sont si lucides. Tu vois, c'est quelque chose. Et c'est vraiment pas la langue de bois. Ils le disent à un moment. C'est aussi parce que, quelque part, contrairement à des étudiants qui sont des fois un peu dans les limbes, eux, la vie, ce que c'est que la société, ils ont déjà, de par leur vie de famille, enfin ce que sont leurs parents, mais aussi qu'ils sont amenés à bosser pour pouvoir avoir de l'argent de poche, quoi, et pas des boulots très sympathiques, tu vois. Ils n'ont pas de piston pour bosser dans l'entreprise de papa et maman, ou tu vois, je veux dire, c'est vraiment. Et puis le fait d'être confronté à un avenir proche, à quelque chose de complètement terrifiant. Enfin, c'est des gens très très lucides. C'est des gens vraiment très très lucides. Et je vais donc à l'interpro. Enfin, c'est cet interpro qu'il avait créé dans le 13e. J'en connaissais rien. J'arrive un peu comme ça, parachuté. Et puis quand la lumière se rallume, j'applaudis à tout rompre. Tout le monde me regarde. Vraiment, mais comme si j'étais complètement folle, quoi. Et puis quand on demande s'il y a des gens qui ont quelque chose à dire, les gens restent quoi, mais vraiment, ils avec des yeux de hibou, hein, vraiment, ils voyaient pas. Et puis moi, je commence mon discours habituel sur les Lascars. Ah, les Lascars, c'est génial. J'en ai pas parlé la semaine dernière de cette histoire, je me demande. Voilà, bref, enfin, comme on est sur les Lascars encore, ben voilà. Et donc les gens comprennent pas, et ils comprennent pas du tout que ça puisse être qu'on puisse s'y intéresser, entre le mec du NPA qui dit il aurait fallu un chef, l'autre qui dit avec leurs petits mots, eux, des choses pas si bêtes que ça, bon, des choses comme ça. Et puis d'une façon générale, tu vois, ils avaient pas idée sur le discours qu'ils tenaient. Ils ont dit, surtout le truc qui m'avait le plus frappé, quand j'ai revu le film hier, je me suis dit, mince, mais c'est même plus du déni à ce stade-là. C'est-à-dire que, qu'ils disent, mais s'ils veulent aller à l'usine, faut pas les mépriser pour ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais là, on est un peu au taquet dans le genre, on veut pas aller à l'usine. T'as la moitié du temps, t'as un gars qui est devant une affiche qu'ils ont fait où il y a marqué en très grosses lettres, on n'ira pas à l'usine, on n'est pas plus bête que vous, on veut pas aller à l'usine. Il commence par dire, on veut pas aller à l'usine. Voilà, notre truc surtout, c'est qu'on veut pas aller à l'usine. Ils disent, on veut pas aller à l'usine, ils expliquent pourquoi ils veulent pas aller à l'usine, ils terminent en disant, on n'ira pas à l'usine. Mais t'as des gens qui voient ça et qui ont conclu qu'ils veulent aller à l'usine. Donc, là, tu sais plus, tu te dis, mais ne pas arriver à communiquer à ce point-là, tu te dis, faut abandonner toute espérance. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Donc, quelque part, aussi, quand ils disent qu'ils ont distribué des tracts, ils ont distribué des tracts aux autres des LEP, là, ils pouvaient avoir un certain succès. Ils disent qu'il y a aussi des gens qui étaient complètement extérieurs, mais avec les étudiants, il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen, ils comprenaient même pas, puis ils n'en avaient rien à foutre, mais ce qui s'appelle rien à foutre, quoi. C'est pas je m'en fous, même pas mal, je veux pas t'entendre, c'est vraiment je m'en fous, t'existes même pas. Et en effet, tu te dis à quoi bon perdre du temps à essayer de communiquer avec des gens qui t'écoutent pas à ce point-là. Enfin, je veux dire, ça doit être assez désespérant. T'imagines, tu dis je veux pas aller à l'usine. Bon, écoute, si tu veux aller à l'usine, je t'en prie, ne crois pas que je te mépriserai pour ça. Enfin, tu vois, c'est et puis des trucs du genre oui, mais il y a des gens qui sont mieux pour penser et puis qui ont plus de talent pour ça, pour écrire, réfléchir et puis faire de l'art, et d'autres qui sont plus doués pour être sur un chantier ou travailler à l'usine. C'est chacun à sa place, quoi. Chacun ses talents, ses compétences particulières, et c'est insupportable, ce discours. Donc tu dis, mais ces gens-là, faut pas essayer, faut les fuir, quoi. Sinon, la prochaine étape, c'est essaye de convaincre l'horloge parlante. T'as autant de chances que ça marche, je sais pas. Enfin, ce que vous en pensez, enfin, comment on peut conclure après avoir vu le film des Lascars qui veulent aller à l'usine? Je comprends pas. Je comprends même pas ce qui peut leur passer par la tête pour dire un truc comme ça.
Oui, les Lascars se demandent aussi, d'ailleurs. je n'irai pas à l'usine, c'est clair, 5 mots, c'est très simple, c'est à la portée de n'importe quel étudiant, hein, a priori. mais comme il dit, il y a qu'eux qui n'ont pas compris, les étudiants, tout le monde, les autres, ils comprennent tout de suite. Mais ce qu'ils disent aussi, c'est que jamais, ils sont toujours encadrés, même dans cette lutte, on leur met toujours soit des étudiants qui les encadrent, soit des profs. Quand ils veulent parler, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude de parler, mais quand ils veulent le faire à la tribune, on les en empêche, ou alors il faut attendre une heure, et l'autre, à un moment, il est obligé pratiquement de se battre pour avoir la parole, et puis finalement, on le laisse parler 2 minutes, et puis voilà, et puis il continue comme si de rien n'était, après, et alors qu'en plus, bien que c'est des gens qui en plus n'ont pas l'habitude de le faire, on le voit dans le film, ils s'expriment très bien, justement, et leur tract aussi, également, sont très bien décrits. Et d'ailleurs, 40 ans plus tard, on en parle encore, alors que les étudiants de l'époque.
ça me rappelle, tu sais, avec je crois qu'on avait parlé aussi, les sans-papiers de la rue Baudelic, c'était un truc qui était en fait chapeauté par le NPA en particulier, mais d'autres syndicats et autres, enfin délégués syndicaux et autres, c'était un peu mêlé à ça. Et quand, avec Denis de l'émission L'Entonnoir, on va aller interviewer des sans-papiers, et que une femme due avec marqué NPA sur un badge, quoi, elle nous saute dessus en disant, vous leur parlez pas à eux. Ils veulent parler, mais ils racontent n'importe quoi. Le porte-parole, elle me désigne un mec du NPA, un blanc, là le porte-parole, il est là-bas, c'est à lui qu'il faut s'adresser, et devant le mec, quoi, devant lui. Et le mec, il dit, c'est vrai, moi, je sais pas bien parler. Alors là, évidemment, on s'est un peu énervé en disant, comment ça, c'était très bien tout ce que tu disais, mais quelque part, ça te montre à quel point, quand on te répète que tu sauras pas parler, que t'es une... On a vu ça, je sais pas combien de fois, quand on était dans des luttes de sans-papiers, hein, Nicolas, que vous saurez pas parler, vous y arriverez pas, on va parler à votre place, ça sera beaucoup mieux, vous allez dire n'importe quoi, et puis vous savez pas, et puis ça te renvoie au fait que depuis tout petit, on te dit que t'es pas, que c'est pas, qu'il y a l'élite qui elle sait, mais toi t'es bon qu'à faire du bétail, t'es bon qu'à faire un boulot de merde, et t'es sûrement pas capable de t'exprimer. C'est ça, c'est pour des gens qui eux ont ce statut là, mais toi tu l'auras pas. pas, tu l'as pas et tu l'auras jamais. Et tu vas pas savoir t'exprimer. Enfin, je veux dire, non, ça te renvoie pas un peu à cette idée-là de... Oui, mais... On a vu ça beaucoup avec les sans-papiers. Tu sauras pas parler, tu sauras pas...
C'est encore pire pour les sans-papiers, parce qu'ils ont... Ben, ils ont encore, enfin, souvent, ils parlent pas aussi bien français non plus, déjà, en plus, donc,
Même ceux qui parlaient bien français.
Oui, non, mais en plus, mais de toute façon, là aussi, même par les étudiantes, c'est pas n'importe qui non plus qui va à la tribune. Et on voit bien aussi que c'est, tous ceux qui ont un rôle, qui sont bien avant, qui, c'est des politiciens, et ils sont déjà politiciens, dans des syndicats, etc. Là aussi, on voit comment eux, c'est pas qu'ils voient pas les lycéens du LEP, mais ils font des magouilles pour les empêcher aussi, pour les garder invisibles. Le fait de les empêcher d'aller à leur propre réunion, où ils expliquent aussi comment ils informent certains et puis pas d'autres, par exemple, quand ils font une AG, comme ça tout le monde n'est pas prévenu. Tout ça de choses pour éviter qu'ils se regroupent ensemble et qu'ils se montrent en tant que lycéens professionnels.
Laurent, par rapport au Lascar, toi, ton sentiment, donc ?
Ben, moi, je trouve que ce film dit... Il y a presque tout qui est contenu, en réalité, dans ce film-là. C'est pour ça qu'il a marqué. Je pense aussi... Alors, c'est vrai que, bon, je pense qu'il a marqué beaucoup de militants un peu radicaux, hein, parce que, tout est contenu dedans. Bien évidemment, l'élitisme, le mépris de classe... par exemple, qui à mon avis sont extrêmement importants dans le film, et ça rejoint des expériences que j'ai pu vivre aussi, puisque j'ai alors c'était un petit peu avant eux, mais donc des mouvements de ce type-là, j'en ai connu, des mouvements étudiants auxquels se joignaient les lycéens et les lycéens du technique, dont je faisais partie d'ailleurs, et en y réfléchissant, je me suis quand même retrouvé avec tout un lycée, hein, et d'autres lycées également, participer à des revendications étudiantes dont l'objet était à l'époque, je pense, c'était se battre pour conserver les sursis au service militaire, pour pouvoir poursuivre ses études. Mais quand j'y pense, on manifestait dans la rue pour permettre aux étudiants qui allaient donc devenir, effectivement, pas tous comme tu le précises, hein, bien sûr, Sylvie, notre futur encadrement, etc., pour leur permettre de poursuivre des études auquel nous, depuis la troisième, on était déjà, on n'avait pas droit, si tu veux. Et quand tu regardes, rien que cet énoncé-là est complètement paradoxal. Et effectivement, dans les manifestations, on était un peu là pour faire un appui, pour faire les troupes, d'une certaine façon. Et il était évident que dans les AG étudiantes, on n'avait pas droit à la parole. Hein. C'était évident. Et tout ça ramène à quoi, bien évidemment, eh bien, on le voit très très tôt dans une lutte, dans un moment revendicatif, eh bien, on voit ni plus ni moins la reproduction de la société. C'est-à-dire des étudiants qui... je mets un bémol aussi comme toi, Sylvie, parce que dedans, il y avait une minorité plus radicale, plus révolutionnaire, etc. C'est évident, mais je parle globalement, qui se pensaient déjà avec le statut social dont ils bénéficiaient et qui se projetaient dans la société en tant qu'adultes avec ce statut social. Et donc, voyaient les lycéens du technique, c'est-à-dire des futurs ouvriers, eh bien, à leur rôle d'ouvrier. Et je pense que dans bien des cas, le problème, il est là. C'est que dans pas mal de milieux, y compris des milieux révolutionnaires, quand on se projette dans une société meilleure, idéale, future, etc., eh bien, en fait, on se reprojette dans la société de demain avec la même division de classe et avec la même division dans le travail. Je l'ai mesuré en côtoyant parfois des étudiants d'extrême gauche, c'est-à-dire plutôt marxistes-léninistes, etc., et tout, et leur rêve d'une société communiste reproduisait exactement cette société-là, c'est-à-dire divisée de la même façon, et eux-mêmes, quand ils se projetaient en tant qu'individus, puisque c'était des jeunes de la bourgeoisie, eh bien, quand ils se projetaient dans leur rêve d'une société idéale, communiste, etc., eh bien, ils se projetaient, eux, comme ce qu'ils étaient dans cette société d'aujourd'hui, c'est-à-dire des intellectuels, tu vois. Et ils s'adressaient à un copain à moi qui étions jeunes ouvriers à l'époque, et nous, ils nous projetaient dans cette société-là comme ce que nous étions aujourd'hui, enfin à l'époque, c'est-à-dire des ouvriers. Et je pense que le film sur les Lascars du LEP électronique illustre complètement cela. Et là où le film est très très fort, et je pense que c'est un film à voir justement, comme tu le disais Sylvie, dans un contexte de mouvement social qui existe aujourd'hui, de lutte, il faut le voir parce que les problèmes qui sont posés sont des problèmes de fond. Alors je sais qu'il y a des gens qui regarderont ce film en se disant effectivement ils sont bien mignons, ils sont bien gentils, voire ils sont complètement nuls, ils sont ridicules, etc. Non, des problèmes de fond sont posés. Parce que quand ils disent on n'est pas plus con que vous, on ne veut pas aller à l'usine. Le premier réflexe, évidemment, qu'est-ce qu'on dit ? Ah, mais il faudra bien des gens pour y aller à l'usine. Sauf que ceux qui disent ça, ce n'est pas ceux qui vont y aller. C'est ceux qui vont être le directeur de l'usine ou le contremaître. Tu vois, c'est là qu'est la différence. Alors, et pourtant, bien, ils posent un problème de fond. Parce que quand ils disent on n'est pas plus con que vous, on ne veut pas aller à l'usine, ils posent un principe d'égalité. Il pose également, si on part de ce refus-là, on pose aussi tout un tas de problèmes liés à l'organisation de la société, l'égalité dans la société, la division du travail dans la société, etc. En réalité, il touche tout un tas de problèmes de fond que n'abordent pas les étudiants qui, eux, pour la plupart, je mets toujours un bémol, hein, Sylvie, qui, pour la plupart, effectivement, restent enfermés dans un problème purement revendicatif, très, très réformiste, parce que ils se projettent, effectivement, dans la société qui est la leur et dans laquelle demain, adultes, ils exerceront un certain nombre de fonctions où ils le souhaitent, où ils se font des illusions, peut-être aussi, bien sûr. Mais en tout cas, ils ne sont pas en rupture. Alors que les jeunes du LEP électronique, en tout cas les Lascars, eux, ont un discours complètement de rupture. Et en même temps, ce n'est pas un discours, et c'est là que c'est très très fort. C'est que c'est pas un discours qui est fermé. Alors c'est vrai qu'il est charrié, les étudiants, ils se moquent un peu d'eux, même beaucoup. C'est évident.
Il faut dire qu'ils sont quand même un peu. Je sais pas si ça a été choisi pour ça, mais enfin, quand on les voit s'exprimer, les étudiants, c'est quand même carrément ridicule. Enfin, je veux dire, je sais pas si tu te rappelles ce passage où il y a un étudiant qui va à la tribune et qui répète deux fois de suite le même discours idiot, tu sais. Il dit, nous, on a fait, on voulait faire une manifestation pacifique. Et c'est parce que ça, c'est vraiment le truc où on les voit dire, oui, mais si on est pacifique, les flics nous taperont pas, alors qu'ils viennent de le faire. Ils étaient assis par terre et ils se sont fait massacrer par terre. Donc, ils auraient dû comprendre, même que t'es pas super malin, tu devrais en tirer des leçons, de te dire que c'est pas une question de provocation, ils te tapent même quand t'es assis par terre. Alors bon, tu vois. Mais donc il dit, ouais, on a voulu faire une manifestation pacifique, et qu'est-ce qu'on nous a envoyé, les flics? Et ça, c'est dégueulasse! Alors la foule d'étudiants, ouais, et tout. Alors lui, visiblement tout content qu'on lui a dit ouais, qu'on l'a applaudi, ben il redit la même chose exactement. On a fait une manifestation pacifique, on nous a envoyé quoi? Le CRS, et ça, c'est dégueulasse! Et là, un peu plus faiblement, ouais.
Alors, il y avait peut-être un petit parti pris au montage, hein, mais voilà.
Oh, bah oui,
mais
enfin,
donc juste pour conclure, ce qui est très fort aussi dans les Lascars, enfin dans ce documentaire, je trouve, et qui relate leur expérience, c'est le fait que ils ouvrent la porte, c'est-à-dire ils s'adressent aux étudiants. Et ils ouvrent la possibilité, effectivement, de s'unir, mais de s'unir sur leur base à eux, c'est-à-dire sur des bases radicales pour changer la société, pour changer les rapports dans la société, etc. et tout, mais n'ont pu être les faire-valoir ou les troupes d'un mouvement constitué autour d'une revendication qui ne les concerne pas. Et là, je trouve que ce moment des Lascars, dans ce qu'ils expriment, est très 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 fort.
Ça c'est dans les tracts.
Ça c'est dans les tracts, c'est pas dans le film. T'as raison.
Dans le film, je pense que le film est peut-être postérieur, même sûrement, puisqu'il parle de la distribution de tracts. Mmh. Et je pense que leur expérience avec les étudiants les a quand même, c'est un peu normal, douchés sur l'idée d'une possible unité avec les étudiants. On peut le supposer quand même que tu dois abandonner facilement toute espérance après avoir multiplié des expériences pénibles avec les avec les étudiants, non ?
Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est un documentaire vraiment à regarder, surtout dans ce contexte-là, aujourd'hui, de lutte.
Ouais, t'en penses quoi par rapport à l'idée d'essayer encore, après tout ça, de s'unir avec les étudiants, Nicolas ?
Non, mais après ça, ils ont créé un autre texte et c'était et puis ils le disent dans le film. Bah, ça nous a appris à reconnaître nos amis et nos ennemis, y compris ceux qui veulent se faire passer pour nos amis. Et puis...
Ouais, donc ils sont quand même. Tu tires des leçons, des expériences, quoi. Que tu te dises a priori, bon, bah peut-être si on fait un appel, si on leur parle comme ci, si on leur parle comme ça, si on leur dit on n'a rien contre vous. D'ailleurs, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. On se disait, en plus, il n'y a pas d'a priori du tout de la part des Lascars. Quand ils se joignent à la lutte, qui pourtant ne les concerne pas, ils n'ont aucune espèce d'a priori contre les étudiants. Et les premiers tracts, en effet, disent étudiants, avec nous, on vous aime, si jamais vous ne voulez pas nous mépriser, quoi. Et puis, je crois quand même que malgré tout, ils sont capables de tirer des leçons d'expérience, tout simplement. Je pense que franchement, ceux qui ont écrit le tract, on parlera tout à l'heure de ce qui s'est passé avec les intermittents, moi ça m'a suffi. Hein. Plus jamais ça. Hein. On s'était laissé convaincre, enfin bon, on va expliquer ça tout à l'heure, mais est-ce plus jamais j'irai
maintenant,
voir.
Non,
bah non, parce que peut-être il faut faire un peu une pause musicale, non?
Oui, d'accord.
Peut-être. Non, je sais pas, c'est comme...
Surtout que c'est ta pause, Natacha.
Alors, parce que j'avais préparé une musique, on va passer Help, le groupe, Emerson, Lake and Palmer, et on passe Lucky Man.
Ah oui, je la connais. Oui.
Voilà.
Oui.
Ok, donc on écoute...
Ouais, on a un petit souci, il n'y a rien qui passe à l'antenne. Il y a bien quelque chose sur ta cassette, Natacha ? Ben oui, oui, non, tout est bon, mais... Bon, on réparera autre chose pour la suite. Hein. Voilà, désolé pour ce petit souci. Et donc, sinon, ce qui était prévu, c'était l'Arabia. L'Arabia qu'on écoute, et le titre qu'on écoute, c'est Je bouffe un riche.
Je suis né au début des années 80. Mes parents firent faillite, j'ai renflé l'exploitin. Quand à la fin des repas, je disais que j'avais faim. On me disait mange ta main et garde l'autre pour demain. J'ai jamais bien compris ce que me disait ma mère. Une main ça nourrit pas, y'a que de la peau et des nerfs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai trouvé mieux à faire. Pour résoudre ce problème d'apport alimentaire, je bouffe un riche, je bouffe un riche, je bouffe un riche. Et je garde l'autre pour demain. Bien sûr, vous allez me dire tout ça n'est pas très sain. Ils sont tous gros et gras, pour mon cœur c'est pas bien. Mais je tiens à vous dire que ce sont des clichés. Moi j'en connais plus d'un, fin sportif et musclé. Mais sans OGM, dès leurs plus jeunes années. Du ski tous les hivers, du bateau tout l'été. Et pour leur habitat, je crois que vous l'aurez compris. C'est tout sauf de l'élevage en batterie. Je bouffe un riche, je bouffe un riche, je bouffe un riche, et je garde l'autre pour demain. Je bouffe un riche, je bouffe un riche, je bouffe un riche, et je garde les autres pour la fin. J'ai grandi à l'époque des restaurants du cœur. Il n'y avait plus, tu vois, d'exploités, d'exploiteurs. On était des exclus, va trouver l'exclueur. Ça c'était notre faute, on était des losers. Fallait savoir se vendre, devenir des winners. C'est la loi de la jungle, tu gagnes si t'es un tueur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plus faim, j'ai plus peur. Quand vient l'heure du repas, je souris de bon cœur. Je bouffe un riche, je bouffe un riche.
pour fin riche et je garde l'autre pour demain. Je bouffe un riche, je bouffe un riche, je bouffe un riche et je garde les autres pour la fin. Si toi aussi tu peines à payer ton loyer, fais du courses pour la semaine ou prendre des congés. Si tu sais pas quoi faire pour sauver la planète, si tu as des ulcères quand tu penses aux fouquettes, si tu veux rendre service aux enfants qui suivront, alors vas-y mon gars, c'est l'heure du gueuleton. N'a plus de dents parce que ça coûte trop cher. Fais le cuir en hachis avec des pommes de terre, mais bouffe un riche, bouffe un riche, bouffe un riche et garde l'autre pour demain. Bouffe un riche, bouffe un riche, bouffe un riche et garde les autres pour la fin.
Radio Libertaire, c'est la voix sans maître, c'est la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'émission lundi matin, on vient donc d'écouter l'Arabia.
Donc oui, je me disais oui, c'est parce que là on passe, c'est le même sujet, mais enfin c'est quand même en même temps pas vraiment directement les Lascars, même si comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu un tract qui faisait le complètement le rapprochement et tout de suite, même avant de dire le tract, on avait fait le rapprochement tout de suite. Quoi. Mmh. Donc voilà ce qui s'est passé, c'est que en fait, on avait un copain, enfin qui a déménagé depuis, qui lui justement était intermittent du spectacle, parce que il était monteur vidéo, donc il faisait partie un peu de cette caste-là, on peut dire. Et justement, c'est bien parce qu'il les connaissait qu'il s'en méfiait énormément. Bon, donc mais à l'époque, on faisait beaucoup de choses avec, enfin on allait beaucoup, on fréquentait pas mal les cafards, qui étaient un groupe qui n'existe plus, qui justement se faisait des permanences pour les précaires qui avaient besoin de coups de main, d'aide, et puis qui organisaient quand ils pouvaient. Malheureusement, beaucoup de gens venaient uniquement pour leur cas et s'en allaient après, donc ils ont fini par arrêter. Mais autrement, à un moment, puis c'est devenu de plus en plus difficile de s'organiser entre précaires. Ça, c'est un truc dont on pourra parler aussi, mais à part ça, c'est vrai que pour des raisons vraiment pratiques, au-delà du fait que c'est pas évident de s'organiser quand on n'est pas directement amené à se rencontrer comme dans une usine ou une entreprise où tout le monde travaille et dans le même syndicat avec le même patron, c'est vraiment pas évident déjà. Mais enfin bon bref, donc on était allé voir les cafards et puis le copain qui s'appelle en vrai Nicolas, mais pour pas les confondre parce qu'on s'agrouille tellement de Nicolas, on l'appelle Francis, voilà. Donc il disait, quand les cafards ont dit ah mais vous êtes pas allé vous mêler la lutte des intermittents du spectacle, c'est vachement bien et tout. Nous, tiède, et puis lui en particulier, le copain, parce que il les connaît, il sait comment ils sont, quoi. Donc il avait été amené à vraiment beaucoup plus que nous les rencontrer en vrai. Et donc parce que tu sais, il y a aussi, on parle de ça par rapport au Lascar, comme tu me disais, ils sont pas amenés des gens du technique à rencontrer des étudiants. De toute façon, ils les rencontrent pas. Il a fallu que pour non, se trouver bah, confrontés à eux, bah oui.
Bah ils sont mis à l'écart, ils sont mis dans une les Lascars, c'est un ancien abattoir de cochons, donc avec et puis même moi par exemple j'étais dans un lycée qui était pas technique, mais il y avait des lycées techniques dans le même lycée, tu vois, il y avait les deux, et ben on se croisait mais vraiment jamais. Jamais, c'était complètement séparé. Il y avait, moi, je me suis retrouvé avec des lycéens du technique, mais parce qu'il y avait, en fait, il y avait deux services à la cantine, et pour des raisons de place, tu vois, ils m'avaient mis dans l'autre service, quoi, où j'aurais pas dû être, au premier service. Mais autrement, on les croisait même pas, quoi.
Mmh. Et oui, c'est pareil pour les SECPA, ils se croisent pas avec les collégiens, même, tu vois.
Ouais, je confirme, moi qui étais lycéen, donc du technique, au sein d'un grand complexe scolaire où il y avait plus d'un millier d'élèves, donc il y avait aussi les filières générales et puis donc plusieurs filières techniques qui étaient proposées, on se croisait jamais. on se rencontrait jamais. Ce qui était très très clair aussi, c'est que il y avait un réel mépris. Alors, ce qui est assez couillon, on va dire, parce qu'on est quand même en banlieue, dans un lycée de banlieue, dans un lycée à l'époque qui avait la réputation, comme on disait, d'un lycée rouge. Et même dans ce contexte-là, il y avait une forme de discrimination, de mépris de classe qui s'exerçait envers ceux du technique, comme on disait. Et c'est assez terrible. Et pour la petite histoire, le seul moment où on pouvait se rencontrer, mais qui se faisait en fait sous la forme d'une confrontation, c'était quand il y avait le tournoi de football de l'école qui était engagé. Alors, c'était un truc très sérieux avec une coupe, etc. et tout. Et je me rappelle que notre classe, qui était donc une classe d'horticulture, espace vert, etc. et tout, on était en seconde et en demi-finale de la coupe, on avait battu une classe de BTS. Et on était très fiers de nous, et c'était presque comme une revanche de classe aussi. Voilà. Mais non, mais pour parler sérieusement, c'est vrai qu'il y avait pour rejoindre ce que disait Nicolas, il y avait un réel mépris, quoi, qui s'exerçait et qui, pire pour nous, était ressenti, bien évidemment, par nous-mêmes.
Et en plus, c'est pas seulement du mépris, c'est comme dit Nicolas, c'est carrément une division. C'est-à-dire que les gens se rencontrent même pas.
À part que c'était marqué lycée professionnel, voilà, c'est même pas où ils étaient, même pas, on les voyait pas vraiment. Oui. Et alors, si. Après, c'est très, voilà, parce que c'est que, bah, voilà, c'est très, très.
Cloisonné, quoi.
Oui, puis genré, quoi. Au lycée, déjà, c'est le cas. Je veux dire, entre les études scientifiques ou littéraires, c'est beaucoup plus féminin ou masculin. Mais là, dans le technique, c'est encore plus, quoi. Parce que, BEP couture, c'est que des femmes. Et puis, là, je sais pas, qu'est-ce qu'ils font, électronique, je sais pas quoi. C'est pratiquement que des hommes, quoi. Et puis même au lycée, quand t'es dans une classe où il y a que des mecs ou que des ou quoi, bah tu côtoies quand même les autres classes, les autres lycées, comme les étudiants, ils côtoient même quelle que soit leur filière, ils peuvent se rencontrer entre hommes et femmes, alors que les lycées techniques sont encore là aussi séparés.
Bah, mais il y a aussi un autre truc par rapport à l'idée des luttes et de pouvoir s'organiser pour lutter. En effet, là, on voit bien les étudiants, ils peuvent avoir des enjeux. Enfin, ils ont d'ailleurs, on voit bien des enjeux communs et ils ont aussi des lieux de rencontre. D'ailleurs aussi entre hommes, parce qu'il y a des hommes et des femmes dans les facs, la plupart des facs, sauf des filières particulières. C'est un truc où au moins ils peuvent se rencontrer de ce point de vue-là. Donc on voit bien que les Lascars sont venus aussi dans la lutte, aussi dans l'espoir de rencontrer des filles, ce qui est quand même assez humain, je trouve. D'ailleurs, à un moment donné, il dit « ou de rencontrer des PD, si t'es PD ». C'est rigolo. Mais le truc, c'est que sur le fait de s'organiser pour lutter, puisqu'on est dans le truc de période de lutte, ben, disons que ce qui est bizarre, c'est que moi, j'avais un statut, on peut dire, d'intermittente, puisque j'étais pigiste, et même je faisais du dessin, j'ai pas fait d'études, mais enfin, au déboté, j'ai été pigiste, et j'ai écrit des bouquins, mais la différence avec les intermittents du spectacle, c'est vraiment très particulier parce que c'est des gens qui, quand tu écris, ben, ou que tu dessines, t'es tout seul dans ton coin, t'amènes ce que t'as fait, et puis tu n'es absolument pas amené à croiser les autres, et on est plutôt même éventuellement un peu en compétition. Et je dis pas que les comédiens, par exemple, sont pas en compète, mais à la base, j'ai même des fois vu jusqu'où ça pouvait aller. La compétition, c'est vraiment féroce, parce que c'est vraiment un concours. Si tu veux, t'as plein de comédiens, sauf quand t'es vraiment haut de la pile, qui peuvent faire l'affaire, et je m'étais retrouvée comme ça, dans une antichambre où les comédiens attendaient pour passer une audition. Moi, c'était pour un scénario, c'est pas pareil, tu vois, mais ils me regardaient, et puis d'une voix vraiment de pendait des glaçons, chaque fille qui devait passer, elle me disait « Tu viens pour l'audition hein, ?» Non, non, et tout, mais c'est vrai, ils se tirent un peu la bourre, et tout, les comédiens surtout, mais le truc, c'est que ils se retrouvent quand ils ont du boulot, ils se retrouvent ensemble. Mmh. Ensuite, même quand tu fais des cours de théâtre, ben tu fais pas des cours de théâtre tout seul. Enfin, c'est un truc qui amène les gens vraiment à se rencontrer et avoir éventuellement des enjeux communs. Même si ça a vraiment beaucoup ses limites, parce que je repense à un truc que j'avais entendu dans l'émission de la CNT. il y a déjà longtemps, quand il y avait une lutte justement d'intermittents du spectacle. Et donc, tu as une directrice de théâtre qui vient expliquer. Elle a pas dit, ce qu'elle m'a dit, elle l'a pas dit au micro. Hein, donc, ils étaient pas obligés de s'en rendre compte, les gens de la CNT. Hein, c'est pas contre eux du tout. Mais enfin, elle explique que c'est pas marrant parce que quand tu dois préparer un spectacle, les risques sont partagés entre toute l'équipe, les techniciens aussi. Il faut que ils sont pas payés tout le temps où on répète et tout ça. Et donc, comme je l'ai au téléphone, je lui dis, mais puisque vous prenez les risques ensemble, quand finalement le spectacle se fait, je suppose que vous partagez les bénéfices. Elle éclate de rire. Ah, très drôle. On va partager les bénéfices. Je suis directrice de théâtre et les comédiens, on va partager les bénéfices avec un technicien, quoi, tu vois. Je savais même pas quoi dire. Mais tu vois, ça a beau avoir ses limites, c'est des gens qui sont amenés à s'organiser parce qu'ils sont amenés aussi à se rencontrer. Ce qui est très important pour la lutte. À une époque où il y avait des grandes usines, les gens pouvaient se rencontrer et avoir un ennemi commun à la personne du même patron. S'il y a un plan de licenciement, ça peut tous les concerner. Enfin, tu vois, je veux dire, l'isolement, c'est un peu le problème des précarités. Dans le tract intermittent, vous n'avez rien compris, il est évoqué ce problème d'être esselé, d'être isolé quand tu es justement pas intermittent du spectacle, mais intérimaire, ou même au RSA, cherchant pas de boulot, ou enfin, tu vois, je veux dire, ou retraité, ou j'en sais rien. Tu te dis, c'est quand même aussi un gros problème d'arriver à organiser une lutte quand tu es isolé. Non, ils évoquent cette question-là.
Oui, ils disent qu'ils se retrouvent le plus nombreux, c'est dans ce qu'ils appellent la CIP, la commission élargissement, qui est destinée à recruter des gens, mais qui intéresse pas beaucoup visiblement les gens de la CIP, c'est pour ça qu'ils sont entre eux.
Oui, voilà. Donc donc on voit déjà un petit peu ce problème-là. Donc bon, pour continuer notre histoire, on finit par être convaincu par les cafards. Ils disent mais non, c'est pas du tout ça. J'ai bien vu sur la page d'accueil. Ils disent que tous les précaires sont bienvenus et qu'ils sont pas corporatistes comme ça. Ils font bien un appel. Effectivement, et on avait regardé, il y avait bien un appel. Du moment que vous êtes précaire, vous êtes bienvenu, on n'est pas centré que sur les trucs du spectacle, quoi. Donc nous un peu, on y allait pas du tout. On va pas. D'ailleurs, il faut quand même le préciser. On n'est jamais allé dans une lutte avec l'idée de la critiquer. Jamais. Hein, c'est vrai, Nicolas. Ben non, ça, je vois pas. Enfin, ça serait vraiment une perte
pas
de
plus
temps.
Plus que. Les Lascar, mais c'est pourtant leur premier tract qu'ils ont fait.
Bah oui, nous critiquons, mais ils n'étaient pas du tout dans cet état d'esprit. Mais absolument pas. Et nous non plus. C'est parce que c'est l'expérience qui fait que tu réagis comme ça. Mais on s'est dit, le gars des cafards nous avait convaincus. On s'est dit, on tente notre chance. Après tout, qui sait, hein, faut pas avoir d'a priori et tout. Hein, on s'était dit ça. On y va à la bouche en cœur. Et finalement. Dès qu'on est arrivé, on a compris où était le souci, quand même.
Oui. Disons que le problème dans cette affaire, c'est pas en soi que les intermittents aient des revendications comme à peu près comme toutes les corporations, quoi. Mais c'est qu'elles aient, quand tu regardes dans les milieux du spectacle ou les milieux artistiques en tout genre. C'est stylé de faire partie de faire partie de l'élite vu que tu touches au culturel, vu que les gens qui vont te voir c'est pas des prolos, quoi. T'as la sensation, enfin ce qui en ressort, c'est comme la sensation d'une injustice pour eux, d'une injustice comme quoi en tant qu'élite d'être payé si peu
et puis d'être traité comme un simple ouvrier d'usine ou manutentionnaire
Oui, voilà. Et du coup c'est que dans la revendication même tu pars du principe de nous on n'est pas comme eux, nous on n'est pas comme le reste des gens qui bossent, enfin bon bon, on est pas de la merde en somme, quoi. Mmh,
voilà.
Ce qui pose problème, du coup, c'est pas dans la revendication des conditions de travail des intermittents, etc. Mais le problème de la poser sous les termes de le reste des gens qui bossent, on s'en fout et c'est normal et ça a toujours été comme ça, on voit pas pourquoi ça changerait, alors que nous c'est une injustice que faisant partie de la culture et de l'élite culturelle d'être payé si peu, quoi.
Oui, puis c'est, d'une part il y avait l'argent, mais c'est vrai qu'ils ont aussi.
T'as
raison, voilà.
Ça se base toujours sur cette espèce de mythe de la méritocratie, de se dire que si tu peux être intermittent, c'est parce que t'as un talent inespéré que très peu de personnes ont. Alors je dis pas que les intermittents sont pas talentueux, qu'ils sont médiocres, etc. Mais c'est que combien de personnes, enfin comme je disais la semaine dernière, combien de personnes, si on n'était pas forcé à travailler, si on avait les moyens d'avoir assez de temps libre pour faire des activités, pour se passionner pour quelque chose, serait vraiment extrêmement brillant dans tout un tas de domaines et je pense à partir du moment où tu fais quelque chose de tes mains, de ton cerveau, qui ne t'appartient qu'à toi, ça touche au domaine artistique, combien de personnes seraient absolument brillantes là-dedans et ne le peuvent pas l'être parce que la nécessité c'est de bosser pour que ce soit alimentaire, quoi. L'injustice elle est plus là que dans le fait de ne pas assez payer l'intermittent du spectacle, quoi.
Je suis même sûre qu'il n'y a pas les exemples qu'on a donnés avant, que ce soit les Lascars ou les sans-papiers qui étaient complexés, on peut pas dire ça autrement. Mm-hmm. C'est au-delà du fait que tu es obligé de travailler, enfin c'est bien en amont de ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand, depuis que t'es tout petit, on te dit, par exemple, des fois, on était consternés avec les sans-papiers. Il y en avait qui nous disaient, mais vous, les Blancs, vous savez mieux que nous.
Oui, il y a la résignation.
Enfin, ouais. Mais il y a la résignation, mais il y a aussi qu'ils ont été pilonnés avec l'idée de leur propre infériorité. Je veux dire, ils savent pas. Enfin, celui qui nous dit, ah oui, mais moi, je sais pas parler, mais il savait très bien parler. Mais quelque part, quand on te répète tout le temps que t'es nul. Je veux dire, on te met dans une classe, effectivement, je parlais des SECPA, mais à une époque, il y avait aussi, c'était l'équivalent, c'était les classes de transition. Je me rappelle d'une directrice qui était allée les voir et puis qui leur avait dit, vous savez comment on appelle vos classes, les classes poubelles. On vous a mis à la poubelle, alors vous la ramenez pas, tu vois. Mmh. Et je veux dire, quelque part, quand on fait tout pour t'humilier depuis que t'es né, pour ainsi dire, je vois pas par quel miracle t'aurais confiance en toi. À contrario, quelqu'un qui vient de classes plus favorisées, où on l'a poussé on lui fait passer l'idée qu'il a toutes les capacités pour devenir, d'avoir des diplômes ou devenir un artiste reconnu, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu n'attraperais pas, à contrario, confiance en toi? C'est pas seulement une question, c'est encore pire. Évidemment, une fois que tu travailles, là, c'est mort. Hein. Une fois que t'es à l'usine, tu reviens, t'es complètement à quatre pattes, quoi, tu vois. Mais en plus, c'est aussi ça, c'est aussi le fait que l'élitisme, c'est aussi que la société, il n'y a pas que dans les luttes qu'elle valorise l'idée de gens qui ont des diplômes, l'idée des gens qui ont écrit un livre, qui ont un statut socio-culturel. Je dis culturel parce que c'est important, quoi, si tu veux, par rapport à être l'élite, c'est pas seulement avoir du fric. Mm-hmm. C'est vraiment un côté culturel. C'est toute la société qui voit les choses de cette manière, qu'un ouvrier, c'est quelqu'un, ou un sans-papier encore pire, c'est quelqu'un à qui tu vas pas demander ce qu'il pense de quoi que ce soit, alors que on va demander à un comédien ce qu'il pense de la politique. D'ailleurs, il y a un passage qui est grandiose dans le film, c'est Francis Lalanne. Tu l'as pas trouvé génial ce passage dans l'escar du LEP électronique. On demande à Francis Lalanne ce qu'il pense. Est-ce que pense Francis Lalanne? Je te crois.
On te répond un peu.
Non, mais c'est idiot. Surtout, c'est un mec comme
oui,
il irradie. On a l'impression de voir irradier des espèces de rayons d'idiotie autour de lui. Tu sais. Vraiment. Mais on va lui demander, on va le voir, lui. Il y a plein de gens dans la manif, mais tu vas voir Francis Lalanne, quoi. Tu vois, c'est quand même un truc de dingue.
Enfin, ça n'a pas changé. C'est toujours. Quand il y a un mouvement quel qu'il soit. Tu vas jamais faire l'interview des premiers concernés, des gens qui ont quelque chose à dire sur leur lutte, sur la lutte qu'ils mènent, quoi. C'est toujours beaucoup mieux vu d'interviewer quelqu'un qui fait déjà partie de la haute, quoi,
une
célébrité ou quand même on regarde. Enfin, faut noter à chaque fois qu'on allume le poste télé ou la radio, on voit que très rarement parler une personne dite quelconque, quoi. On va voir un prénom à côté expert en mouvements sociaux, expert des experts en tout genre, quoi. Ou même des gens, enfin là l'exemple était assez flagrant quand même pour Francis Lalanne, enfin quelqu'un qui avait absolument rien à voir, complètement du nuche, quoi.
Non, mais c'est ça,
mais c'est de se dire, enfin, toute personne connue qui n'a rien à voir, pour qui c'est pas son sujet, vaudra mieux qu'une personne quelconque. Enfin, à la limite, que tu ferais l'interview de. D'ailleurs, ça s'est déjà vu assez fréquemment d'interviewer un scientifique réputé, en je sais plus trop quoi, on pourrait dire en bactériologie, un truc comme ça. Mais. Qu'est-ce qu'il en a à faire des mouvements sociaux, quoi.
C'est clair. Mais donc, oui, je sais pas, tu veux raconter comment ça s'est passé quand on s'est retrouvé, quand finalement on est allé à la fameuse, on s'est inscrit sur la liste, tu sais, de la lutte des intermittents, finalement. Donc, ça se passait comme ça, ils te contactaient par un SMS, en fait, pour venir à un truc surprise. Tu savais même pas ce que c'était. C'est vraiment la pochette surprise. Mais pour être surpris, on était surpris, hein, Nicolas, comment?
Ben oui, parce que, enfin, le problème, c'est que, bon, ils défendent leurs intérêts, bien sûr, mais ils prétendent défendre autre chose aussi.
Oui, c'est ça, le problème, comme
Et donc, ils appellent les gens à les rejoindre dans une lutte qui va aussi les concerner eux directement. Oui. Mais en fait, tu te retrouves et tu te rends compte que t'es là pour juste faire du nombre, pour défendre leur truc à eux. Mmh. On s'était retrouvé un coup dans un collectif de mal logés. Il y avait des sans-papiers et des avec papiers. Et au bout d'un moment, il y en a qui, avec papiers, qui ont commencé à dire, mais tiens, on pourrait déjà, s'il y en a quelques-uns qui ont, tu vois, leur dossier HLM pour avoir un logement au-dessus de la pile, et ben ce sera toujours ça. Mais il n'avait jamais été question de dire que les sans-papiers viendraient dans le collectif pour aider les avec papiers à avoir un logement. Et c'est ce mensonge-là aussi, quoi. Il y a des travailleurs qui se mettent
ensemble, et c'est pas vrai.
Il y a des on peut aller soutenir des travailleurs en grève, par exemple, mais qui prétendent pas.
C'est officiel, t'es en soutien, c'est
voilà,
ça.
Ouais. Voilà.
Là, c'est vrai que c'est le côté qui se prétend unitaire, un peu comme quand on avait dénoncé l'idée de prétendre que c'est l'autogestion quand en réalité c'est de la chefaillerie. Ben, de la même manière, tu peux te dire que l'idée que tous ensemble et tout, ça va être un mouvement unitaire, et qu'à l'arrivée tu te rends compte que c'est pas ça du tout. Ben, tu vois, comme quand on a déjà, je pense, raconté l'histoire de la Tyrus, c'était un peu pareil, mais là, on arrive, enfin, grosso modo, c'était comme dans le tract que t'as mis sur le blog du groupe d'Ivry. Donc, vous tapez anarchiste Ivry. Je trouve que c'est pas évident de trouver quand tu fais anarchiste info et tout. Si, c'est pas évident, je trouve. Enfin, bref. Donc, le truc, c'est que, en effet, la même chose que ce qui se plaignent avec les intermittents nous est arrivé, enfin, dans ce tract, nous est arrivé, à savoir qu'on arrive, après qu'on nous ait, enfin, qu'on ait vu le baratin sur la page d'accueil de la CIP, donc, coordination des intermittents et précaires, et ils déploient déjà une banderole, une grande banderole où il y avait marqué, puis derrière quoi on s'est retrouvé, où il y avait écrit « La culture en danger ». Bon, donc tu te dis, je croyais que ça concernait tout le monde. Et après, ils vont à la tribune, et puis ils parlent de la culture en danger, que c'est quand même super important, leur cas, parce que c'est quand même la culture, quoi. Tu vois, donc toi t'es là et je suis allée trouver une fille que je connaissais un petit peu de du Rémouleur, qui était un lieu sur Montreuil militant quoi. Et j'ai dit non, mais franchement, vous en pensez quoi? Ben elle dit la même chose que toi. Je suis allée les voir et j'ai essayé d'en parler avec eux en leur disant je comprends pas, vous nous avez dit de venir, que ça concernait tous les gens précaires, pas que vous. Et puis là, il a été question que de vous. Et j'ai dit, ils t'ont répondu quoi? Elle m'a dit rien. Ils m'ont regardé d'un air vitreux. Et puis là, ils se sont retournés vers les gens à qui ils parlaient, comme si j'avais pété au lieu de parler. Tu vois? Non, vraiment, c'était, ça faisait quand même un drôle d'effet. Ce côté qui te calcule même pas. Alors en plus. Dans le genre pochette surprise, tu te retrouves aussi, ça c'est un peu ce dont parlait Lascar, et c'était pareil, on a vécu ça plusieurs fois, on te prétend que c'est pas que tu viens à un truc qui est, des fois même peuvent prétendre que c'est la politique, mais simplement ils évoquent pas le fait que ça va être des politiciens, ça ils en parlent les Lascar de ce côté. Et là c'était même pas caché, t'as carrément une femme qui est venue à une espèce de petite tribune qu'ils avaient improvisée, c'était dans une cour d'un hôpital, et qui a commencé à haranguer pour voter Mélenchon, tu vois. Et moi j'étais complètement furieuse quand elle est venue nous donner des tracts pour voter Mélenchon. Je te rappelle, j'étais super en pétard. Et je me rappelle que d'ailleurs les autres du Rémouleur aussi, ils disaient, si c'est pas possible, on nous avait pas dit ça. Je dis, si j'avais su, moi j'aurais pas venu, hein. Franchement, que c'était ça. Et je me rappelle que ça avait été pareil quand on était à la coordination Notre-Dame-des-Landes, Île-de-France. On a commencé à avoir défilé des politiciens qui venaient dire votez pour nous, votez pour les Verts, votez pour le je sais pas Mélenchon, votez pour le PC, enfin, et qui défilaient comme ça. Et c'est même pas moi, hein, c'est il y a des gens qui, il y a eu vraiment un petit tollé de gens qui ont dit si on voulait venir à un meeting politique des Verts ou on irait, mais là c'est malhonnête quoi. De toute façon, c'est ça le mot, c'est malhonnête. Si jamais ce que tu veux, c'est juste te manipuler, t'utiliser et tout, que ça soit dit carrément. Bah justement, d'ailleurs, quand il y avait la projection des Lascar devant, c'était donc des profs de fac et des étudiants. À un moment, une étudiante dit, se tourne vers un mec qui devait être apparemment qui était le seul qui était pas soit prof de fac soit étudiant et qui était, elle dit ah ce monsieur est ouvrier à la SNCF et elle lui dit mais en toute candeur hein, on a absolument besoin de vous dans la lutte parce que nous si on fait la grève tout le monde s'en fout, ce qui est pas totalement faux, enfin je veux dire les gens hurlent pas à la prise d'otage si des profs de fac et des étudiants font la grève, faut être honnête, je veux dire, c'est vrai. Donc à la rigueur les étudiants font la gueule que les profs de fac fassent la grève, mais ça va pas plus loin, c'est pas un truc qui va faire le buzz dans le pays va pas être paralysé. Donc carrément, le mec avait pas osé parler, je suppose, il avait rien répondu, mais elle lui dit on a besoin de vous pour faire les bras et nous on fera la tête évidemment. Tu vois, mais c'est extrêmement malhonnête quoi, tu vois, tout ça, de cette façon de présenter les choses pour c'est de l'escroquerie quoi. C'est vraiment comme tu sais le quand on te dit t'as gagné un truc gratuit, viens le retirer, puis arrivé là on te laissera sortir que si t'achètes un appartement en timeshare ou tu vois ou des enfin voilà, il y a un côté traquenard quoi. Enfin, c'est un peu ce qu'expriment les Lascar, mais c'est ce qu'on a ressenti aussi, et c'est ce qu'ont exprimé d'autres gens qui ont relaté la même expérience, parce que c'est récurrent, cette façon d'escroquer les gens.
Non, c'est le problème de l'unité. en fait, qui est posée, c'est que bien souvent, on voudrait l'unité, ce serait tellement beau, l'unité, ce serait vraiment bien le tous ensemble. Mais derrière le tous ensemble, derrière ce désir d'unité, en quelque sorte, dans un mouvement, ben, en réalité, on gomme tout un tas de trucs. Hein, on gomme tout un tas de trucs. Dans le mouvement étudiant de 86, c'est les lycéens du technique, enfin des LEP, qui sont gommés, qui viennent faire les bras et les jambes pour les étudiants. Et on retrouve ça dans tout un tas d'autres mouvements. Et l'unité, souvent, elle est factice. L'unité, elle est présente, elle est palpable, c'est une réalité quand en fait il y a des gens qui sont les sans parole, les privés de parole, les oubliés, ceux qu'on n'entend jamais, ceux dont la voix est ténue, ceux qui sont les fantômes, les invisibles, qui sont classe fantôme dans cette société en quelque sorte. Et l'intérêt de la démarche des Lascars, c'est de faire émerger cette contradiction apparaisse, que cette réalité apparaisse. Et quand on le fait souvent dans des mouvements où l'unité du mouvement est mise en avant, quand tu fais éclater un certain nombre de contradictions, quand tu mets à jour une certaine réalité, tu vas être traité de provocateur, tu vas être traité de bordélique, tu vas être traité de pas sérieux, bref, tout un tas de qualificatifs qui vont s'abattre sur toi. Et pourtant, je pense que c'est utile, nécessaire et élémentaire de dire la réalité, tout simplement, la réalité des contradictions et des contradictions de classe, notamment au sein d'un même mouvement. Ça me paraît... Ça me paraît essentiel, élémentaire, de faire ça, plutôt que de construire un mouvement sur une base qui soit fausse, en fait, sur un mensonge. Parce que si on fait une unité de façade construite sur le mensonge, le non-dit, qui reste une réalité, par contre, effectivement, et c'est ce qu'on sait tout à l'heure pendant l'émission, c'est effectivement un problème de lutte de classe au sein d'un mouvement. Et c'est en ce sens aussi que l'exemple des Lascars du LEP électronique est un exemple particulièrement enrichissant, je trouve, pour la période actuelle.
Est-ce que là,
un petit morceau de musique peut-être ?
Oui.
Oui.
On peut passer la musique de.
Oui. En fait, j'avais pas remis la bobine. alors voilà, j'ai passé une bande vierge.
Voilà. Bon, bah j'espère que cette fois-ci, ça va être bon. Donc pour Help, Emerson, Lake and Palmer.
Had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man. He was white lace and feathers, they made up his bed, a gold covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was.
He went to fight wars for his country and his king, of his honor and his glory, the people would sing.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
A bullet had found him, his blood ran as he cried. No money
Libertaire. Donc on a écouté, enfin on a écouté Help, Emerson, Lake and Palmer. Il est 12h40, donc une vingtaine de minutes encore à passer ensemble. Oui, juste avant de vous laisser la parole, juste pour revenir là-dessus, ça me paraît effectivement, je l'ai dit et redit, mais je le redis encore une fois, ça me paraît essentiel effectivement, et je pense que ça peut être un rôle entre autres des libertaires, des anarchistes dans un mouvement social, effectivement au risque d'apparaître comme des fouteurs de merde, mais de faire éclater un certain nombre de vérités, de réalités, et de mettre à bas un petit peu ce mensonge de l'unité. On l'a fait dans l'émission, notamment à d'autres moments, par rapport au mouvement Occupy, où je m'étais exprimé contre cette idée de nous sommes les 99%, ils sont les 1%. Et je disais à l'époque que ce serait tellement beau et facile quelque part si nous étions les 99% et eux les 1%. Et ce que je disais, c'est que dans ces 99%, il y a aussi tous ceux qui nous emmerdent. Hein, dans la société, tous ceux qui sont nos chefaillons, tous ceux qui nous briment, tous ceux qui nous humilient, etc. Donc que ça voulait rien dire en réalité ce slogan, cette expression, ça traduit un espèce d'idéal d'unité, mais cet idéal est factice parce que tout simplement on est dans une société de classe. Hein, c'est peut-être idiot de l'énoncer comme ça, mais c'est une réalité. On est dans une société de classe et cette réalité là, il faut l'énoncer en permanence.
Moi, par rapport, pour en venir au Lascar, et sur le fait qu'ils disent toute la liste des gens qui pourraient effectivement contribuer à les opprimer, même quand c'est pas le cas, et que tu fais, je sais pas, en effet, un mec qui est prof de fac, il opprime pas spécialement les futurs ouvriers ou les ouvriers. Mais la question, c'est simplement que faut être conscient que dans cette société, t'as des gens qui ont quelque chose à perdre, enfin, je veux dire, qui s'en sortent pas si mal, et que du coup, bien sûr, ils peuvent pas avoir les mêmes enjeux dans l'idée d'une révolte que quelqu'un qui se dit, mais c'est pas ça la vie. Enfin, je veux dire, même dans Passe ton bac d'abord, où c'est pas des gens ni politisés, ni révoltés particulièrement, enfin, révoltés au sens politique du terme, ben, ils ont quand même tout à perdre dans leur situation. Alors qu'un étudiant, il a quand même, même s'il va emmerder personne à l'arrivée, il est quand même fait comme partie des gens qui auraient quelque chose à perdre dans l'idée d'une, par exemple, d'une révolution. Les révolutions sont quand même souvent faites principalement par des gens qui sont complètement au taquet au point de vue situation, en particulier quand ils commencent à avoir faim ou être, rien que le fait de dire je veux que ma vie ça soit pas ça. Mais les étudiants se disent pas ça. Mmh. Et au bout du chemin, déjà même leur situation, même quand elle est précaire financièrement, on avait une fois projeté d'ailleurs les Lascars devant une copine à moi qui est pas du tout bête, hein, loin de là. Mais elle vient vraiment des classes supérieures. Elle a fait des études de cinéma et pendant ses études de cinéma, ses parents l'aidaient pas et du coup elle devait faire des petits boulots. Donc elle dit oh, mais moi aussi je sais bien ce que c'est les petits boulots. J'ai dû être caissière à la FNAC, etc. Mais donc je sais ce que c'est. Et elle avait reconnu parce que ben elle fait partie de la minorité qui est capable de prendre de la distance avec sa propre situation et ce qu'elle vit, que en effet c'était pas la même chose de faire un boulot pénible en sachant que c'est temporaire et que au bout du chemin tu vas avoir bah en effet maintenant je dis pas qu'elle fait un truc exactement ce qu'elle voulait faire, mais enfin elle est dans le montage aussi vidéo et tout ça, c'est pas la même chose que de bosser à l'usine. Mm-hmm. Tu vois, et donc je veux dire elle avait aussi de toute façon, que ça soit couronné de son espoir soit couronné de succès ou non, l'espoir de devenir un jour cinéaste, etc. Tu vois, c'est tout de suite. Alors que cette idée de t'as envie de faire des tas de choses intéressantes, agréables et tout, puis boum, t'as un mur qui te tombe dessus. Et c'est un mur qui est quasiment infranchissable. Enfin, je veux dire, quand on te dit ton horizon, excusez-moi de prononcer le mot, mais je veux dire, ton horizon, c'est à quel âge tu vas partir à la retraite. Je me souviens d'un jeune qui avait l'air lucide aussi et qui disait, moi, de toute façon, j'aimerais bien partir à la retraite le plus tard possible vu que je veux être comédien. Et j'ai pas du tout envie d'arrêter ça. Et il avait dit, c'est pas un travail comme, c'est, on peut appeler ça un travail, mais enfin c'est pas pareil que de travailler en chantier, à l'usine ou balayer ou je sais pas, dame de cantine ou des trucs comme ça, quoi. Tu vois, tu te dis, on appelle ça travail aussi, mais enfin il espère y partir le plus loin possible. Quand c'est une activité qui est agréable comme ça, et pourtant on appelle ça pareil. Les artistes d'ailleurs, ils aiment bien dire mon travail, souvent ils parlent de leur travail. Donc quelque part tu te dis c'est le même mot, mais ça désigne vraiment pas la même chose. C'est des gens qui sont, on peut pas appeler ça autrement, qui sont privilégiés. Ils peuvent pas avoir les mêmes enjeux que quelqu'un dont on va gâcher comme ça l'unique vie qu'on peut avoir, quoi. Enfin. Ouais.
Ouais, dans le film aussi, sur les Lascars, on voit que ça se reflète aussi dans les façons de manifester, hein, puisque on voit d'ailleurs une partie des étudiants qui encadrent les autres et qui organisent les Lascars derrière, machin, mais qui organisent toutes les manifs et pour faire en sorte aussi que ça déborde pas, que ça reste dans le cadre, que ça manifeste gentiment, pour pas remettre les choses trop, pas aller trop loin, quoi.
Alors qu'il y a un des jeunes qui, des Lascars, qui dit, moi je comprends que les gens, qu'il y en ait qui soient en colère quand leur situation, grosso modo, c'est la même que la nôtre, quoi. Mmh. Il y a de quoi être en colère et pas avoir envie de s'asseoir par terre en agitant les mains et en chantant du gaufret. Tu vois, t'as vraiment un peu le seum, quoi, tu vois. Voilà.
Ouais. Mais j'ai compris, puisque c'est dans ces manifs-là qu'il y a eu un mort tabassé. Par les flics, bon, un coup de matraque, on va dire Kouzekine, comme ils disent dans le film, un arabe, comme par hasard, d'ailleurs.
Oui, comme par hasard.
Et là aussi, et puis d'ailleurs, ça a été, pour eux, ils disent, l'enterrement du mouvement. Parce que après ça, la réaction, ça a été plus jamais ça, mais c'était plus jamais ça, manif silencieuse, et plus jamais, on les voit comment ils disent, mais arrêtez d'aller provoquer les flics, après, c'est à votre faute s'ils vont nous taper, quoi.
Comme si Malik Houssekine, d'ailleurs, avait provoqué qui que ce soit, de toute manière. Puis ceux qui sont assis par terre, c'est un mythe, ça, qu'ils ont besoin de prétexte pour taper. On on a vu trop de manifs où les gens se faisaient taper en n'ayant rien fait du tout et personne n'avait rien fait. Ils n'ont pas besoin de prétexte. Donc cette histoire de provocateur, pour moi, c'est vraiment une légende urbaine. Hein. Ça n'a jamais été avéré. Ils n'ont pas besoin. Enfin, quand on les voit à l'œuvre, ils n'ont pas besoin de prétexte pour taper sur les gens. Mais le côté, on va manifester pacifiquement, ou même comme on en avait parlé un coup, des gens qui avaient fait un piquet de grève et puis qui étaient tout contents parce que c'était des vacances. C'était trop sympa et tout, mais nous, quand on a vu les piquets de grève des sans-papiers, qu'ils avaient rien eu au bout du compte, ils n'ont pas eu l'impression que c'était des vacances. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une divergence, si tu veux, absolument infranchissable entre des gens que finalement, même si ça marche pas, ils s'en sortiront pas si mal, et puis des gens pour qui l'enjeu, c'est que leur unique vie est quasiment foutue à la poubelle, quoi. Tu vois, c'est tout de suite, il y a une difficulté à se comprendre. Il y en a qui peuvent pas être aussi énervés que les autres, quoi. Et ça, c'est quand même dit vraiment clairement dans le film sur les Lascars, je trouve. Voilà.
C'est cette effectivement, c'est cette colère, c'est cette rage. Mais je pense que pour la comprendre, cette rage, il faut vivre la situation. Sinon, c'est complètement impossible. Parce que c'est des situations très différentes entre cette situation quand on est jeune de classe populaire qu'on se retrouve en lycée, maintenant on dit professionnel ou technique, je sais plus, moi à l'époque on disait lycée technique, on sait qu'on est promis un certain avenir, ça procure effectivement en soi quand on est un peu politisé et qu'on s'ouvre un petit peu au monde, ça provoque évidemment de la rage. Mais même à l'époque, quand je discutais avec un jeune étudiant, bon, lui, il était trotskiste, mais on discutait quand même ensemble, il était à sciences politiques. Et au moins, il était conscient de ça. Il m'avait avoué, pour être plus précis, il m'a dit, moi, vu ma condition sociale, vu mon avenir professionnel, dont je suis certain qu'il existera, la révolution, je peux l'attendre beaucoup plus tranquillement que toi, dans cette vie qui va être la mienne, qui va être une vie de confort intellectuel, de confort financier, etc. Je peux l'attendre beaucoup plus patiemment que toi et tes potes, qui êtes un petit peu dans l'urgence et qui aimeriez bien en finir rapidement avec cette société-là. Bon, je dis ça dans un contexte de l'époque où voilà, la révolution était un petit peu plus à l'ordre du jour qu'elle ne l'est maintenant. Mais voilà, c'est bien sûr une réalité. Donc moi, je comprends la rage et je comprends la révolte et je comprends la colère, bien évidemment, et je la partage complètement. Et je trouve que la colère et la révolte des Lascars qu'on voit dans ce documentaire, elle est très 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 saine. Mais au-delà de la colère, et c'est important de le préciser, parce que quand on parle de la colère, et la colère est légitime, bien sûr, ça renvoie à quelque chose qui est pas forcément, on va dire entre guillemets, évolué. Et justement, la force des Lascars, c'est qu'ils vont de leur révolte et de leur colère à quelque chose d'élaboré, c'est-à-dire une dénonciation lucide de cette société-là. Et en ce sens, c'est assez, je trouve que c'est assez extraordinaire. Mais je suis certain que même en disant ça, je suis persuadé que des gens regarderont ça et en fonction de leur positionnement social dans cette société-là, regarderont ça avec un œil très amusé. En quelque sorte, genre ils sont mignons ces petits gars, ça fait plaisir à voir, mais c'est pas très sérieux tout ça. Alors que si, au contraire, et d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, on est très sérieux.
Oui.
Vous voulez passer un morceau de musique peut-être ?
Peut-être.
Ouais. Alors je vais, on va passer Buddy Guy, c'est du blues, je voudrais en profiter puisque c'est du blues et qu'on a eu de ces nouvelles. Il n'y a pas longtemps, Sylvie, pour saluer notre copain José, voilà, militant cheminot très très actif, et j'imagine très actif en ce moment d'ailleurs. Bon, salut José.
Salut José.
Spéciale dédicace pour toi, donc Buddy Guy. Thank you.
take me back. I'm all too sad. I didn't know I love you so. Where you go? Went off to hide, I could have died. Let's go to the bridge right here.
L'émission est quasiment finie, donc quasiment quelques minutes encore.
Ben déjà pour annoncer, premièrement peut-être Nicolas, dire toutes les belles choses que tu as mis sur le blog. Et alors, comment on fait pour aller sur le blog du groupe Libertaire d'Ivry, Nicolas?
Ben, c'est très simple, on tape dans la barre d'adresse de son navigateur, anarchiste.info. Et ben, là, on a deux liens. Hein, voilà. Et puis, il y a un lien vers Groupe Libertaire d'Ivry. C'est le blog du Groupe Libertaire d'Ivry.
Voilà. Et l'autre, c'est le programme de
ça concerne la Radio Libertaire.
Voilà. 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 Et puis, on peut aussi en profiter pour réannoncer, bien qu'on l'avait fait en début d'émission, on va projeter à la librairie Publico, du coup, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, la ferme des animaux adaptée en dessin animé d'Orwell.
Ouais,
ce sera la semaine prochaine, dimanche.
Dimanche, voilà, à partir. On peut dire, l'accueil, c'est à partir de 15 heures. On peut dire, on accueillera les gens, c'est nous. Et donc, à partir de 15 heures, on peut faire l'accueil. Parce que nous, contrairement à ce dont se plaignent, ceux qui ont fait le track sur les intermittents, on est plutôt du genre assez accueillant, quand même. Hein. On va snober personne. Même s'il y a des étudiants, on sera sympa. Voilà.
Un petit peu.
Et puis donc, le thème du... Après, il y aura une discussion, et la discussion, c'est comment lutter contre toutes les formes d'autorité, qu'elles soient, et de pouvoir, qu'ils soient communistes et autoritaires, donc parce que nous, on est communistes mais libertaires, et ou que ce soit n'importe quelle autre forme de pouvoir, quoi. Et donc, en effet, c'est, je veux dire, le communisme autoritaire, on court pas plus après que après toutes les autres formes de pouvoir. On a vu ce que ça donnait dans l'histoire et on n'en veut pas non plus. Donc comme ça tourne autour de ça. Cela dit, le film lui-même, pour les gens qui ont des enfants, vous pouvez, enfin pour le débat, je pense qu'ils apprendront la question du stalinisme, mais bon. Mais en revanche, c'est un film qui peut vraiment être fait, être vu par autant par les enfants que par les adultes. Hein. On l'a déjà projeté dans le passé avec nos propres enfants qui ont complètement adoré le film. C'est un très très bon dessin animé. Pour quelque chose qu'on pourrait croire artisanal, c'est vraiment au point de vue même qualité, quoi, vraiment un très bon dessin animé. L'histoire, elle est vraiment très bien, c'est très bien, enfin elle est intéressante, elle est intense, elle est touchante. Alors moi, si vous avez des enfants au bas âge et qui vous demandent où est passé le petit cheval qui est si sympathique, vous dites qu'on l'a emmené dans un autre pré à la campagne. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que si vous voulez éviter la même chose que quand il y a la mort de la mère de Bambi, il faut pas dire ce qui arrive à ce cheval. Mais sinon, sans rire, c'est vraiment un truc qui plaira. Vous venez avec vos enfants et puis, je pense on peut toujours s'en débrouiller si vous voulez participer au débat, quoi. Mais vous pouvez venir, je pense, avec des enfants. Voilà. Et donc, c'est dimanche 5 février, accueil à partir de 15h, à partir de 16h, et puis après, ma foi, on verra combien de temps dure la discussion.
Oui, et puis
c'est
manière,
vraiment une discussion, il n'y a pas de conférence.
Le dimanche, la librairie, elle ouvre à 13h comme d'habitude, quoi.
Voilà, donc, voilà. Et puis... c'est vraiment une discussion. D'ailleurs, souvent, quand on voit que la discussion, elle part un peu, que les gens discutent entre eux, on se met à discuter entre nous, on boit un petit verre et on discute. Chacun va discuter avec des gens comme ça, un peu librement. Voilà.
On va noter que le film, quand il était sorti en 1954. Hein, il est sorti en 1954. À l'époque, le film avait été interdit. Alors bien évidemment, il avait été interdit pour des raisons politiques, ça paraît évident, mais comme la censure est toujours faux cul, l'interdit a été prononcé au nom de la maltraitance envers les animaux.
Non.
Oui, comme quoi voilà.
C'est animé en plus.
Donc vous êtes cordialement invité. Bien évidemment, ça va continuer sur
Entrée
Radio
Libre,
Libertaire,
bien sûr.
En musique, en chanson, jusqu'aux prochaines émissions, au début d'après-midi. Et là, je vais vous passer, pour se quitter, The Trashmen. Alors Trashmen, c'est le groupe qui a fait ce morceau qui illustre, à un moment donné, musicalement, le documentaire fait au Lascar. Vous allez le reconnaître et tout. Et puis après, j'enchaînerai avec les Charlots. Merci patron. Voilà.
Et pour télécharger donc le film dont on vient de parler, les Lascar de l'EP électronique, vous pouvez aller sur le blog Anarchiste Ivry, n'est-ce pas? Mmh. Et puis comme ça, il y a un lien pour le télécharger. Et il y a aussi dans le détail le tract intermittent. Vous n'avez rien compris. Et aussi, il y a un lien pour voir tous les tracts des Lascar du LEP électronique. On vous conseille ça très très vivement.
Voilà.
Franchement,
donc,
on peut dire qu'il y a avant et après avoir connu les Lascar pour moi.
Ouais. Donc tout ça sur le site anarchiste.info. Donc les Charlots, c'est un groupe de musique très populaire des années, c'est quoi, les années 60, Sylvie?
Quoi donc?
Les Charlots.
Ah, je suppose.
Hein,
oui.
Voilà. Et donc, ils avaient fait ce titre, Merci Patron. Alors, c'est pas un grand moment de la chanson subversif, contestataire et révolutionnaire.
Oui, elle en vaut beaucoup d'autres.
En même temps, voilà, elle en vaut beaucoup d'autres. Et notamment quand ils disent on sera tous patrons, c'est pas une apologie du patronat. définition, si on devenait tous patrons, ça voudrait tout simplement dire que le patronat a été aboli, hein, par définition. Voilà, bref, on écoute tout ça, donc The Trashmen, et ensuite Les Charlots. À la semaine prochaine, au revoir.
Au revoir.
Well, everybody's heard about the bird. The bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, the bird, bird.
Nous occuperons de vos ennuis de patron.
Vous préparez la Rolls-Royce.
Lloyd, Lloyd.